Bonsoir à tous. L'essentiel commence ce soir par un pourboire qui fait débat, un pourboire défiscalisé annoncé aujourd'hui par le chef de l'État. Quelques euros payés en carte bleue pour essayer d'attirer les jeunes vers le métier de serveur. Mais ce petit coup de pouce fiscal est-il un vrai geste ou un gadget? Élément de réponse dans un instant. Autre axe de l'exécutif pour réduire le chômage de longue durée, la formation professionnelle. Jean Castex débloque près d'1,5 milliard d'euros pour former 1,5 million de chômeurs. Explication à suivre. À suivre également le blocage électoral en Allemagne. Armin Laschet ne veut pas lâcher. Le leader conservateur arrivé deuxième l'a redit en conférence de presse. Le procès de 14 agents des forces de sécurité de l'autorité palestinienne et l'hommage du comédien Jacques Weber à François Florent, fondateur des cours Florent, mort aujourd'hui à 84 ans. Voilà pour le sommaire. 15 minutes d'infos avant de vous retrouver, Fabienne, en direct donc de Berlin.
Et oui, et bienvenue Sébastien, le long de la Spree qui traverse Berlin, parce que nous sommes sur ce qui pourrait être l'équivalent d'un tout petit bateau-mouche qui va nous emmener au fil de l'eau, en même temps qu'on va parler ensemble de politique allemande, de coalition, de la place des Verts et pas seulement. Et ça tombe bien, puisque au fil de l'eau et de notre promenade, nous passerons devant le Bundestag, nous passerons tout près de la chancellerie, où est toujours Angela Merkel, peut-être encore pour un moment. Ça va nous aider à comprendre les remous et les clapotis de la politique allemande. À partir de 19h20, ce sera votre tour avec vos questions au téléphone sonne. Nous sur l'eau, vous au téléphone au 01 45 24 7000. À tout à l'heure.
France Inter. Après le chéquier, l'exécutif sort donc sa carte bleue. Le chef de l'État qui met une fois de plus la main au portefeuille pour tenter de venir en aide aux restaurants et aux cafés durement touchés par la crise sanitaire. Cette fois, Emmanuel Macron annonce une défiscalisation des pourboires. En clair, si vous payez un pourboire à un employé en carte bleue, il n'y aura dessus ni charge ni impôt. L'idée, c'est d'attirer à nouveau les jeunes qui ont déserté la profession difficile de serveur après la crise du Covid. Bonsoir Manuel Ruffet.
Bonsoir.
Alors, cette mesure fiscale de l'exécutif est-elle vraiment de nature à changer la donne dans le secteur?
Alors, dans ce secteur, l'hôtellerie, café, restauration, où cet été encore, on a cherché, et souvent en vain, à pourvoir 160 000 postes au total, eh bien la mesure apparaît comme positive. Positive pour les salariés qui vont bénéficier d'un complément de revenus, positive pour les employeurs qui cherchent à attirer du personnel. Roland Aiguille, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière.
C'est une action volontaire du client. Il est content du service, il est content de la qualité du service. Donc, effectivement, avec sa carte, il peut offrir au serveur un pourboire. Vous le savez, on a une pénurie importante dans le service. C'est un outil supplémentaire pour attirer les jeunes dans nos métiers.
Un tiers des Français disent ne plus donner de pourboire faute de liquide. Deux tiers se disent prêts à le faire s'il existe une solution numérique. Et même si le résultat final reste difficile à chiffrer, Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines et vice-président de la commission des finances, porte ce projet avec conviction.
On peut supposer qu'en activant le pourboire par la défiscalisation, il y aura un complément qui variera sans doute selon les établissements, mais qui pourra parfois être substantiel et qui rendra ces métiers plus attractifs. C'est pas du tout un gadget, c'est mettre à profit la générosité des Français pour apporter une solution à ce secteur qui rencontre aujourd'hui de grandes difficultés de recrutement.
Et les syndicats de salariés craignent tout de même que les employeurs n'utilisent cette mesure pour contraindre les prochaines négociations.
Manuel Ruffet, service économique de France Inter. Ajoutons qu'à l'occasion de cette annonce au Salon international de la restauration à Lyon, Emmanuel Macron a été la cible d'un jet d'œuf raté. L'œuf a rebondi sur son épaule, mais l'auteur a été immédiatement interpellé, placé en garde à vue. C'est un étudiant de 19 ans, inconnu des services de police. Quand le gaz arrêtera-t-il de grimper? Nouvelle hausse attendue au 1er octobre prochain. Une hausse historique de 12,6% des tarifs réglementés par rapport au mois de septembre. On en parlait à l'instant de ce pourboire de défiscaliser pour les serveurs afin de rendre le métier plus attractif, mais l'hôtellerie-restauration n'est pas le seul secteur qui peine à recruter, loin de là. On parle d'1,5 million d'emplois non pourvus en France, alors qu'en face, le taux de chômage, même s'il recule de 1,4% ce mois-ci, reste encore autour des 8%. Face à ce paradoxe, le gouvernement entend miser sur la formation opérationnelle rapide au sein même des petites et moyennes entreprises. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Jean Castex, le Premier ministre, annonce un plan 1,4 milliard d'euros, dont près de la moitié pour permettre aux patrons de PME qui en ont besoin de former en urgence les gens les plus éloignés de l'emploi.
Oui, des formations concrètes en situation de travail, adaptées au plus près et aux besoins de l'entreprise qui n'arrive pas à recruter. Le demandeur d'emploi est épaulé par un mentor au sein de l'entreprise. Le stage dure 2 à 3 mois et s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, un mécanisme qui existe déjà aujourd'hui, boosté par le gouvernement. Pour avoir fait ses preuves en termes d'insertion, se réjouit le président de la CPME, François Asselin.
Ce sont des emplois qui, au départ, ne demandent pas de niveau de qualification particulier. L'entreprise, eh bien, a le rôle d'assurer la mise en pratique dans le milieu professionnel de la personne. Ensuite, l'organisme de formation doit former la personne au métier de l'entreprise. Et puis, vous avez un accompagnant. Pour que ça fonctionne, il faut que le demandeur d'emploi soit accompagné.
À l'issue du stage, une embauche ou en CDD ou en CDI est proposée 8 fois sur 10 par l'entreprise, souligne François Asselin. Ces formations préqualifiantes sur des métiers qui ne demandent pas de qualification peuvent alors déboucher sur un nouveau cycle de formation avec par exemple un contrat de professionnalisation.
Laurent Kramer, rajoutons au chapitre formation encore le lancement en grande pompe aujourd'hui de l'Académie de l'OMS à Lyon, l'Organisation Mondiale de la Santé, une structure équipée de technologies de pointe qui doit servir à former plus de 15 000 agents de santé par an venant du monde entier sur les questions de santé publique. C'est une vraie partie de poker qui a commencé depuis hier soir en Allemagne. Quel parti va réussir à rassembler une coalition suffisante pour diriger le pays? Les sociodémocrates et les conservateurs sont quasi à égalité. 25,7% pour le SPD, 24,1% pour la CDU. Et tous les deux entendent bien entamer rapidement des négociations avec les deux autres partis faiseurs de roi, les Verts, arrivés troisième, et les libéraux du FDP. Le leader des conservateurs a tenu aujourd'hui une conférence de presse. Armin Laschet est pressé de toutes parts pour laisser tomber le score qu'il a fait, l'un des pires de la CDU. Mais il tient bon, il a fait savoir cet après-midi. Sébastien Baer.
Les mots prononcés à la mi-journée sont presque les mêmes qu'hier. Ils traduisent la détermination d'Armin Laschet. Malgré le revers historique subi par son parti, le candidat de la CDU entend bien rester dans la course à la chancellerie.
Aucun parti ne peut tirer de ce résultat électoral un mandat de gouvernement suffisamment clair. Pas nous, je l'ai dit dès hier, mais pas non plus le SPD.
Mais l'entêtement d'Armin Laschet commence à agacer les Allemands. Pour Katharina, une secrétaire, le candidat chrétien-démocrate persiste à nier l'évidence.
Pour moi, c'est un mauvais perdant. Il est responsable de cette situation de blocage et d'incertitude. Au lieu de dire « oui, bon d'accord, nous avons perdu et nous l'admettons », et de laisser le SPD monter une coalition avec ses partenaires.
Y compris au sein de son propre camp, Armin Laschet voit certains de ses soutiens prendre leur distance. Heike ne comprend pas que l'héritier d'Angela Merkel envisage encore de décrocher la chancellerie.
Même si je suis une électrice de la CDU depuis des années, que je soutiens le parti, il faut se rendre à l'évidence et reconnaître les résultats. La majorité des gens s'est exprimée et c'est ainsi.
Armin Laschet et la CDU espèrent nouer des liens avec les Verts et les libéraux, possibles et surtout plus probables futurs alliés du SPD d'Olaf Scholz. À Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
Les élections allemandes, on y revient juste après ce journal avec Fabienne Sintès en direct de Berlin. À l'étranger, encore l'autorité palestinienne au cœur d'un procès très sensible à Ramallah. 14 agents des forces de sécurité de l'autorité palestinienne sont jugés depuis ce matin pour avoir battu à mort l'opposant Nizar Banat. C'était en juin dernier, une mort qui avait provoqué une vague de manifestations et d'arrestations sans précédent. Après plusieurs reports, première audience donc ce matin sous haute surveillance. Reportage de Frédéric Mettezo.
Les policiers, tenus de camouflage et kalachnikov, sont plus nombreux que les contestataires, démobilisés par les reports du procès. Les 14 accusés ont plaidé non coupables. Le frère de l'opposant assassiné, Hassan Banat, est resté dans le hall du tribunal.
Nous ne voulons pas être dans la même pièce que les meurtriers. De plus, ce procès est celui de petits soldats qu'on sacrifie. Ils servent de fusibles. Tant que le ministre de l'Intérieur et les hauts responsables palestiniens de la sécurité ne seront pas sur le banc des accusés, ce procès ne sera qu'une mascarade.
Cet été, Nizar Banat voulait se présenter aux élections en deuxième position de la liste Liberté et Dignité. Pour Amjad Chiab, sa tête de liste, l'annulation du scrutin par l'autorité palestinienne prouve son délabrement.
Sur le niveau politique, un échec. Sur le niveau économique, c'est un échec. Sur le niveau de contact avec la population, c'est un échec. La même personne, la même partie, la même corruption, le même discours. Comme l'autorité, il a complètement créé un système avec clientélisme. Nous, on cherche à réformer ça. On demande à l'Union européenne de faire la pression sur l'autorité.
Et pourtant, c'est l'Union européenne qui finance l'autorité palestinienne.
Elle devrait contrôler les finances.
Aucun opposant ne fait confiance à la Cour. C'est un tribunal martial et non civil. Les autorités pourront donc utiliser le secret défense. Ramallah, Frédéric Mettezo, France Inter.
Ils se plaignent que leur visite n'ait pas été revalorisée depuis 15 ans. Les 1300 médecins généralistes de SOS Médecins ne répondent plus au téléphone depuis ce matin. matin et jusqu'à demain matin, 8h, 24 heures d'arrêt pour alerter, disent-ils, les Français sur le risque de disparition des visites à domicile et pour demander une augmentation de tarifs. Résultat, depuis ce matin, plusieurs SAMU observent une hausse de leur activité, près de 10% en plus dans certaines régions, notamment à Nantes. Écoutez le docteur Joël Genvrin, il est responsable médical du SAMU 44, où la situation pourrait s'aggraver dans la soirée.
On a effectivement une crainte qui est de voir une augmentation des appels à l'heure de fermeture des cabinets de ville, avec un report de l'activité de médecine générale sur la soirée et la nuit. Et l'impact va être sans doute assez important sur les services d'urgence. Donc c'est typiquement ce type d'appel qu'on va recevoir, c'est des problématiques de fièvre, de demande de soins pour des douleurs, des choses comme ça. Pour le moment, pour ce qui concerne l'activité du SAMU Centre 15, on a dû augmenter notre capacité d'accueil des appels. Chaque service d'urgence va s'organiser pour renforcer son activité et ses professionnels de santé pour accueillir les patients et ce surcroît d'activité. Donc pour l'instant, il est gérable au regard des renforts qu'on a mis en place aujourd'hui dans le service. On espère que le mouvement ne va pas durer trop longtemps pour retrouver un fonctionnement qui serait normal et qui ne rajoute pas de la tension à des services d'urgence qui sont déjà très très tendus et sollicités.
Le responsable médical du SAMU 44 à Nantes avec Alice Cachaner. La mort à 84 ans de François Florent, le fondateur du cours Florent, qui a vu passer plusieurs générations de comédiens, de Vincent Lindon à Isabelle Adjani, en passant par les plus anciens et les plus fidèles, comme Francis Huster ou Jacques Weber. Avant de créer le cours Florent en 1967, François Florent était professeur de théâtre au lycée Carnot, dans le 17e arrondissement de Paris. Et c'est là où Jacques Weber, élève en seconde, le croise pour la première fois. On l'écoute.
C'était un maître. Pas que pour moi, pour la plupart de tous les gens qui sont passés au cours Florent, et c'est presque tout ce qui fait la profession maintenant. Je pense que lui a très vite compris qu'il était un bon acteur, mais pas un grand acteur. Mais il a très vite senti, dès les premiers cours, qu'il était fait pour la pédagogie théâtrale, mais ça va bien au-delà, puisque lorsque le cours Florent existe, ils inventent des toutes nouvelles structures de travaux. Ils créent, avec mon ami Francis Huster, l'école libre de chez François Florent. Enfin bref, alors bien sûr, l'énorme succès a fait qu'après on a dit c'est l'usine Florent, mais vous savez, dans cette énorme chose, c'était une auberge espagnole, on y trouvait aussi ce qu'on y apportait, et de toute façon, quand bien même on ne devenait pas un acteur, un bon acteur ou un grand acteur, ce qui est sûr, c'est qu'à la sortie de chez Florent, on était un peu plus un homme.
L'hommage de Jacques Weber à François Florent, c'était avec Stéphane Capron. La météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
La météo avec Sébastien Léas, encore un peu de pluie, Sébastien, sur le nord-est ce soir.
Oui Sébastien, après avoir balayé une large partie du pays aujourd'hui, la perturbation pluvieuse est en train de glisser entre le Grand Est, la Bourgogne, le Massif Central et les Pyrénées. Demain matin, cette perturbation aura déjà quitté le pays. La matinée sera globalement calme, souvent ensoleillée, sous un ciel voilé, hormis sur les régions du Nord-Est et au sud de la Garonne, où le début de journée sera gris à cause de nuages bas et de bandes brouillard. Ces grisailles pourront même donner quelques gouttes sur le bassin aquitain, mais elles vont peu à peu s'effacer au profit du soleil voilé. L'après-midi, les éclaircies et le soleil seront prédominants, toujours agrément de nuages élevés, parfois épais. Sur les Alpes et le Jura, le ciel sera plus nébuleux. Et puis à l'arrivée d'une nouvelle perturbation, les nuages envahiront à nouveau la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France. Des averses aborderont même le Finistère et la Manche demain après-midi, les débordements étant plutôt rares sur les autres départements du Nord-Ouest.
Et les températures seront en baisse.
Oui, après la douceur du week-end, les températures vont retrouver des saveurs plus automnales pour cette semaine. Demain après-midi, on attend 18 degrés à Brest, 19 degrés à Lille, 20 degrés à Paris, 20 degrés également du côté de Lyon ou encore de La Rochelle. Il fera 22 degrés à Bordeaux, 25 degrés à Montpellier et tout de même 28 degrés à Ajaccio.
Sébastien Léas de Météo France, merci.